On va donc poursuivre avec notre troisième temps, qui est à nouveau une table ronde, dont on a déjà un petit peu évoqué le sujet dans la table ronde précédente, et qui est donc liée, d'ailleurs on ne vous a pas encore, on vous a pas mis le livre en exposition, à la parution d'un ouvrage aux éditions de l'EHESS qui s'appelle « Qu'est-ce que l'échange économico-sexuel ?» L'échange économico-sexuel avec différentes études de cas et différentes études de terrain qui permettent de questionner ce concept. Et donc je vais laisser la parole à Mathieu Trachman, qui est sociologue à l'INED, et qui va nous présenter les différents intervenants et la théorie elle-même. Voilà, bonne suite de colloque.
Bonjour, donc oui, la table ronde est consacrée à la théorie de l'anthropologue Paola Tabé et puis à sa réception en fait en France, et notamment à l'occasion de la parution d'un ouvrage qui vient juste de paraître sur l'échange économico-sexuel, donc qui a été co-dirigé par Christophe Broca et puis Catherine Deschamps, qui est là, qui est donc anthropologue à Nanterre au LASCO Sophia Paul. Et à côté d'elle, ce n'est pas donc Christine Salomon qui était prévue au début, mais c'est Philippe Combessy, qui lui aussi est sociologue au LASCO Sophia Paul également, qui a contribué à l'ouvrage, qui avait également dirigé avec Sybilla Meyer un numéro d'Ethnologie française qui, lui aussi, sur les transactions sexuelles où la sexualité négociée, que tu as ramené, sexualité négociée, et qui était aussi une contribution en fait à la question des échanges économico-sexuels. Donc avant en fait d'essayer de présenter les ouvrages et puis le terrain de Philippe qui travaille sur le libertinage, je vais juste, peut-être que c'est peut-être utile en fait de savoir qu'est-ce que c'est finalement que l'échange économico-sexuel, que veut dire en fait le concept de Paola Tabé. Donc c'est un concept que Paola Tabé a développé à partir des années 80, notamment il y a l'article de 87 qui est le premier article sur la question. Finalement, pour comprendre comment les relations sexuelles entre hommes et femmes, comprendre les relations sexuelles entre hommes et femmes qui impliquent une compensation. Le cadre de Tabé est celui du féminisme matérialiste, donc elle s'inscrit dans, elle fait partie d'un groupe de recherche, qui comprend aussi Christine Delphi, Nicole Claude-Mathieu, Colette Guillaumin notamment, Gail Feterson, qui envisage les rapports entre hommes et femmes comme des rapports de classe. Et ce que je vais essayer de montrer en fait, c'est le potentiel de rupture en fait de ce concept d'échange économico-sexuel, rupture à la fois avec les analyses sur la prostitution qui le précède, mais aussi pour une part avec le sens commun. Et la question qu'on peut poser, c'est pourquoi pourquoi parler d'échange économico-sexuel et pas de prostitution. Et ce que montre Tabé donc dans la Grande Arnaque, qui est ce livre qui rassemble en fait ses travaux sur la question, qui est paru en 2004, c'est de montrer qu'en fait ce qu'on entend par prostitution est en fait une notion floue qui rassemble des pratiques et des individus très différents. C'est-à-dire que d'un point de vue historique, elle le montre à partir d'un ensemble de travaux, il y a des rétributions d'actes sexuels qui ne sont pas considérés comme, qui ne sont pas qualifiés de prostitution, et à l'inverse, il y a des échanges sans argent ni sexualité qui sont considérés comme de la prostitution, et en particulier sont qualifiés comme prostituées ou putes, des femmes qui ont de nombreux partenaires ou qui sont dites « vénales », entre guillemets. Donc en fait, le premier travail, c'est de déconstruire la catégorie de prostitution, mais aussi de montrer que la catégorie de putain, si elle ne définit pas des pratiques ou un groupe spécifique, sert à rappeler à l'ordre, à stigmatiser des femmes qui s'écartent des normes sexuelles. Et de ce point de vue-là, Tabé opère deux déplacements par rapport à ce qu'on entend par prostitution, donc entre guillemets. D'une part, on ne s'intéresse plus à des pratiques minoritaires et extraordinaires, mais à des pratiques ordinaires. Et c'est la banalité des échanges entre actes sexuels et des biens qui est au centre de l'analyse, indépendamment de la manière dont ces échanges sont qualifiés par les participants eux-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, qui paye le restaurant lors d'un premier rendez-vous, qui offre un bouquet lors de relations de séduction, quelle sexualité est considérée comme un bien de valeur ou un objet d'échange et quelle sexualité ne l'est pas. Et donc, pourquoi certaines personnes échangent-elles leur sexualité contre autre chose. Donc le premier point, c'est ce continuum des échanges économico-sexuels qui permet de rassembler en fait un ensemble de pratiques bien au-delà de ce qu'on entend habituellement par prostitution. Deuxième point, on peut remarquer que la question de l'argent n'est plus finalement la question centrale. Ça peut être tout à fait d'autres biens ou même des statuts qui sont échangés. On peut penser par exemple à ce qu'on appelle promotion canapé, entre guillemets. Et ce qui est fondamental pour Tabé, c'est le sens de l'échange. C'est-à-dire que ces personnes qui échangent une sexualité contre autre chose, ce sont très majoritairement des femmes qui échangent leur sexualité pour des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il y a une sexualité féminine qui peut être constituée en service pour des hommes et, comme le souligne Tabé, que ceci soit riche ou pauvre. Donc c'est un second déplacement. D'une part, donc, le premier, c'était des pratiques extraordinaires à des pratiques ordinaires. Le deuxième point, on passe de la question de la marchandisation de la sexualité de certaines femmes à la question politique du statut de la sexualité féminine en général. Pour continuer là-dessus, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une demande de sexualité par des hommes et une offre de sexualité par des femmes n'est pas l'expression d'une différence naturelle de besoins sexuels. Tabé le comprend dans le cadre d'une inégalité entre les sexes, d'une division du travail, dans laquelle les ressources sont mobilisées par les hommes, aussi dans le cadre de violences exercées sur les femmes, notamment dans le cadre domestique. Donc finalement, en fait, la question des échanges économico-sexuels n'a de sens que dans le contexte plus large, en fait, d'une oppression des femmes. Le cas d'Haïti, qui est rapporté par Tabé, me semble éclairant de ce point de vue-là. À Haïti, toutes les relations consenties, qu'elles soient conjugales ou extra-conjugales, y sont considérées comme des échanges entre hommes et femmes. C'est-à-dire que la ressource essentielle des femmes, c'est leur sexe, et donc il est normal que leur sexe ait une valeur d'échange. Par contre, en fait, ce qui est mal vu, ce n'est pas qu'une femme fasse commerce de sa sexualité, c'est qu'elle le fasse avec plusieurs hommes en même temps, et surtout, c'est qu'elle n'en fasse pas du tout commerce, c'est-à-dire qu'elle se donne pour rien. Et il me semble que prendre l'initiative, revendiquer ses désirs, c'est-à-dire revendiquer finalement une sexualité qui soit un échange de plaisir et pas du plaisir contre quelque chose d'autre, c'est ça qui suscite l'air. Tabé montre que c'est ça qui suscite les rappels à l'ordre, l'opprobre ou la violence. On voit que l'enjeu politique n'est donc pas celui strictement du commerce de la sexualité en tant que telle, mais finalement de la possibilité pour les femmes d'avoir une sexualité à soi. Et donc c'est une analyse aussi de l'appropriation par les hommes du corps des femmes et de l'expropriation de la sexualité féminine par des hommes, là encore dans des échanges qui sont ordinaires. Donc la grande arnaque dont il est question dans le titre n'a de ce point de vue-là pas grand-chose à voir avec les supposés super profits des industries du sexe. Il s'agit de la situation de femmes qui ont été et sont encore dans une précarité économique plus grande que les hommes, qui sont incités à faire de leur sexualité un bien échangeable et qui, donc, dans le mouvement même où elles tentent d'améliorer leur situation, se conforment aux désirs des hommes. Troisième déplacement en fait, qu'opère Tabé, je conclurai là-dessus, c'est qu'elle essaie de montrer qu'il y a un continuum, donc en fait, pour elle, la majorité des femmes est prise dans les échanges économico-sexuels, mais pourtant, toutes n'y occupent pas la même place. Et Tabé va montrer qu'il ne s'agit pas d'opposer les putes et les femmes bien, mais d'analyser les différences entre celles qui explicitent les termes de cet échange, qui négocient, font de leur sexualité un service, et celles pour qui l'échange reste implicite. C'est-à-dire que dans un contexte d'oppression des femmes, il est difficile de penser à un échange réciproque de sexualité, mais il y a bien certaines femmes qui se posent en partenaires de la transaction et pas seulement en objet d'échange. C'est-à-dire que plutôt que différents profils de femmes, on peut distinguer trois situations. Premier point, la situation du mariage, où la sexualité féminine fait l'objet d'un don. Deuxième situation, le travail sexuel forcé où des femmes sont esclaves, en général d'hommes. Et troisième point, certaines formes de prostitution où la sexualité est constituée en travail, voire où le service sexuel est distingué de la sexualité en tant que telle. Donc on peut Tabé oppose la situation d'aliénation des femmes mariées, où finalement l'appropriation de leur corps n'est pas discutée, à celle des prostituées qui font profit des échanges dans lesquels elles sont prises. Et donc pour Tabé, dans cette certaine forme de prostitution, il y a là une potentialité politique d'une réappropriation des femmes par elle-même. Donc pour conclure, on peut dire que le concept d'échange économico-sexuel n'est donc pas tout à fait une théorie de la sexualité, ni d'une théorie, ni, ce n'est pas non plus tout à fait une théorie économique, hein, comme le laisserait peut-être supposer son, le nom. C'est un outil qui met en évidence un des aspects centraux des rapports sociaux de sexe. Et on peut souligner le double aspect du concept, puisqu'il y a une extension très large. C'est-à-dire que Tabé essaie de saisir, en anthropologue en fait, essaie de saisir un phénomène structurel, voire quasi universel. Et pourtant, c'est aussi un outil très précis, puisqu'elle écarte un ensemble d'interactions ou de transactions, même s'il y a, où il peut y avoir tout à fait de la sexualité et des échanges d'argent, mais qui ne sont pas pour autant en fait, des échanges économico-sexuels. Donc c'est plus un nœud dans la structure de l'oppression des femmes, un nœud qui essaie de nouer de manière précise la division sexuée du travail, les violences que subissent les femmes libres, le fait que la sexualité des femmes soit constituée en marchandise de valeur, et finalement les différents statuts, les statuts différenciés de la sexualité féminine et masculine. Donc c'est ce... C'est ce nœud en fait qui était le point de départ donc de l'ouvrage co-dirigé par Christophe et Catherine, qui rassemble en fait un ensemble de travaux dont peut-être on peut d'abord souligner que c'est un ensemble de travaux souvent de jeunes chercheurs, ce qui témoigne aussi de la vitalité en fait de la sociologie, de l'anthropologie, de la sexualité en France, qui s'appuie en effet sur des analyses féministes classiques, mais aussi renouvelle à la fois les terrains, les objets et les théories. Donc peut-être la première question en fait, peut-être Catherine, tu peux présenter l'enjeu du livre. Pourquoi en fait reprendre aujourd'hui la notion d'échange économico-sexuel, et qu'est-ce que vous avez voulu faire en fait avec cet ouvrage?
Oui, bonjour. Alors ce qu'on a voulu faire avec Christophe, c'est effectivement partant du constat que les travaux de Paola Tabé sont excessivement souvent cités dans toutes les recherches très récentes et moins récentes parfois, qui portent sur la sexualité, on a voulu s'interroger sur est-ce qu'on l'utilisait, Paola Tabé, effectivement, pour ce qu'elle avait voulu faire, en sachant que, comme vient de le rappeler Mathieu, l'objet de Paola, ça n'est pas la sexualité. Et donc, nous, on a plutôt constaté qu'elle était souvent utilisée pour sa valeur descriptive, enfin, le concept, le continuum de l'échange économico-sexuel, mais finalement pas tant que ça pour sa valeur explicative. Donc on est parti de là, on est parti aussi d'un positionnement qu'on avait, Christophe et moi, et puis l'ensemble des chercheurs qui ont été invités à collaborer à l'ouvrage, c'est-à-dire plutôt des transactions sexuelles, ce qui n'est pas la même chose. En fait, les transactions sexuelles, c'est un élargissement, on pourrait dire, par rapport à la dite prostitution. Alors, on peut débattre du terme prostitution, ça a déjà été fait un petit peu précédemment, mais ça englobe la dite prostitution, ça la dépasse, mais en tout cas, c'était toutes les formes de sexualité où il y a un échange relativement explicite entre sexualité et argent ou biens divers et variés, qui peuvent être aussi des biens parfois symboliques. Ces travaux sur les transactions sexuelles, ils se sont développés beaucoup en rapport avec le sida et dans les pays africains au départ, et puis ensuite Asie du Sud-Est, Amérique du Sud, Amérique latine. Donc déjà le fait que le sida ait contribué au développement de ces travaux dit que ça n'est pas dans le contexte, dans le même contexte que celui dans lequel Paola Tabé commence à écrire lorsqu'elle écrit les temps modernes l'article célèbre du don au tarif. Donc déjà c'est un autre contexte. Et on voulait essayer de voir comment aussi des contre-exemples, pas des contre-exemples, mais comment des recherches contemporaines qui portent sur des situations qu'elle a peut-être moins pris en compte pouvaient ou non perturber, poursuivre la théorie qu'elle proposait et que Mathieu vient de rappeler. Du coup, par exemple, on s'est intéressé notamment aux relations sexuelles entre hommes. qu'elle abordait un petit peu, mais vraiment à la marge. Voilà. On s'est intéressé aussi aux situations de migration, aux situations contemporaines de migration. On s'est intéressé aux femmes, aux situations de femmes qui paient pour des services sexuels auprès d'hommes ou pour de la sexualité. Est-ce que c'est des services sexuels ? Est-ce que c'est de la sexualité ? Bon, etc. Et après, bien sûr, la question, c'est est-ce que partant d'objets, donc la sexualité, autour de la sexualité, qui n'était pas l'objet de Paola Tabet, qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces exemples par rapport à sa théorie ? Et comment, finalement, est-ce qu'on peut transposer un cadre théorique même plus large que celui des échanges économico-sexuels de Paola Tabet, qui est celui du féminisme matérialiste, mais aussi du structuralisme, est-ce qu'on peut le transposer à des recherches, à nos recherches plus contemporaines ? Alors, parmi les petits échos qu'on a eus, certaines critiques qui nous sont adressées laisseraient entendre que nous, on rejette l'idée qu'il y aurait une domination masculine qui expliquerait tout ce qu'on peut voir. C'est pas tout à fait ça. C'est davantage que, déjà, on est attaché, quasiment tous dans le livre, à une approche relationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsque, effectivement, sur le terrain, on entend toute la complexité que les gens, les personnes, hommes ou femmes, ont à nous raconter en rapport avec la manière dont ils vivent leurs échanges sexuels. Et donc finalement, nous, si on se décale peut-être par rapport à Paola, qui nous a fait l'immense plaisir de proposer l'article qui reprend, comme ça a déjà été fait ailleurs, hein, ses travaux pour ouvrir la discussion. C'était vraiment chouette de sa part de le faire. Mais disons qu'on décale en essayant d'être plus du côté de la multitude des rapports de pouvoir et pas seulement de la domination masculine. En fait. Okay. Après, je dois dire une limite de ce que je trouve on n'a pas réussi à faire, mais ce que globalement les chercheurs contemporains n'arrivent pas à faire, qui était un souhait de Paola et qui est toujours un souhait de nous, c'est qu'on n'arrive pas en anthropologie et en socio-qualitative, disons, pour l'instant, à travailler sur la sexualité ordinaire. Ça reste le gros absent de nos recherches. Et il faut, je crois, encourager ces recherches-là pour aller au bout même de la discussion sur qu'est-ce qui se joue là-dedans de l'ordre de l'échange, de la domination, des rapports de pouvoir, de la complexité de ces rapports de pouvoir.
C'est ça, en effet, ce que Paola souligne dans le texte en fait, du livre, c'est qu'un de ses efforts, c'était de faire porter le regard savant, mais aussi le regard politique, pas seulement en fait, sur les sexualités déviantes comme la prostitution, mais sur les sexualités dites normales comme le mariage. Et en effet, de ce point de vue-là, de certaine manière, la réception de Paola Tabet est encore à venir et les outils en fait, anthropologiques ou sociologiques. Ceci dit, il y a des enquêtes plus démographiques, et quantitatives qui analysent bien la sexualité entre guillemets ordinaire ou les arrangements entre famille et emploi de manière ordinaire, qui d'ailleurs montrent bien les asymétries. Mais dans le livre, en effet, vous pensez par cas plus qu'autre chose et sur des cas qui sont en effet souvent des situations limites ou marginales. Donc c'est là où peut-être que Philippe, tu peux présenter ta recherche. Donc ta contribution s'intitule « Femmes seules en milieu libertin ». Donc peut-être toi, quel usage tu peux présenter ton terrain et dire quel usage en fait tu as fait de ce concept pour éclairer certains aspects de ton terrain.
Alors deux choses. La première, c'est que mon terrain ne se circonscrit pas à ce dont je vais parler aujourd'hui, dont j'ai parlé dans cet article. Mon terrain qui concerne la question de la sexualité depuis une dizaine d'années concerne les questions de pluripartenariat envisagé du côté féminin, on pourrait dire dans l'Occident, avec différentes façons d'envisager le pluripartenariat. Sans doute la plus simple, c'est d'avoir deux, trois relations en même temps, ce qui, a priori, n'est pas ce qui est socialement valorisé dans la société. Encore que, il faut voir dans quelle mesure certains magazines. Bon. Il se trouve que là, C'est une forme très particulière de pluripartenariat, mais qui a un caractère, plusieurs caractères intéressants sur lesquels j'ai fait focaliser mon article dans cet ouvrage. C'est la question de la sexualité collective, c'est-à-dire les espaces dans lesquels peuvent, dans le même espace, se produire plusieurs formes de rencontres sexuelles. Il se trouve qu'il y a très peu d'espaces au sein desquels les chercheurs peuvent aller éventuellement y voir. Les tournages pornographiques et les espaces de sexualité collective font partie des espaces où le chercheur peut à la fois recueillir des informations par entretien, comme on le fait traditionnellement, mais aussi aller voir ce qui se passe, et ça peut permettre de découvrir un certain nombre de choses. Alors, de fait, les espaces de sexualité collective, globalement appelés libertins, et je le mets systématiquement entre guillemets parce que c'est des dénominations indigènes que certains indigènes valorisent, survalorisent, que d'autres rejettent. En général, je le mets entre guillemets. En gros, ce sont des espaces, la plupart du temps, commerciaux, donc soit avec pignon sur rue, plus ou moins discret, soit organisés sous forme de ce qui s'appelle soirée privée, mais il y a toujours des participations aux frais, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours des questions d'argent qui entrent dedans. Les femmes auprès desquelles je mène ces recherches donc, sont à la recherche de rencontres principalement avec des hommes, donc ce sont des espaces hétérosexuels, alors qu'il y a aussi des espaces de sexualité collective strictement masculin sur lesquels il y avait eu déjà pas mal de recherches. Là, en l'occurrence, il en existait aussi, et il en existait aussi qui se faisait principalement dans le cadre de vérification d'une théorie, je veux dire, à laquelle qu'on partage tous, de la domination masculine. Il se trouve que je me suis intéressé plus particulièrement aux femmes, le titre c'est « Femmes seules en milieu libertin », donc qui sont statistiquement sans doute minoritaires, mais qui, de façon entre copines, à l'insu de leurs conjoints, vont venir trouver quelque intérêt, mais alors justement quelque intérêt à fréquenter ces espaces-là. Et il se trouve que quand depuis 5 ou 6 ans je me suis mis à travailler sur cette question de l'échange économico-sexuel, je me suis dit, c'est assez étonnant, cet espace, ces espaces semblent réunir une espèce de concentré de tout ce qu'on peut voir décrit par Paola Tahabé. Alors, rapidement, je vais simplement prendre les deux bornes extrêmes du continuum. D'un côté, on pourrait dire la passe de la prostituée, de l'autre côté, le mariage. La passe de la prostituée, la question passe de la prostituée est presque omniprésente dès qu'on pénètre dans ces espaces. D'une certaine façon, on peut dire, les femmes sont invitées à mettre en avant ce qui traditionnellement est considéré comme ce que mettent en avant les prostituées, c'est-à-dire leur poitrine, leurs fesses, etc. Enfin, il y a une espèce de contrainte à porter tout ce qui peut rehausser les stéréotypes féminins comme corps objet du désir, qu'on retrouvera, qu'on retrouve traditionnellement chez les prostituées. Je dis traditionnellement parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres, façons de s'habiller quand on est professionnel du sexe, mais il se trouve qu'il y a là une espèce de caricature mise en avant de certains aspects du corps féminin. En même temps, on va trouver souvent dans ces espaces des simulacres de prostitution. J'ai ramené des billets factices, des règlements factices de simulacres de prostitution, alors qu'ils sont, et ça me semble assez intéressant, dans les mêmes espaces, assez régulièrement organisé de façon équilibrée. C'est-à-dire qu'on va avoir au mois de février la soirée Reine des Putes, et puis 2 mois plus tard, on va avoir la soirée Le Roi des Gigolos. Et on va avoir donc comme ça une espèce de semblant d'égalité entre la façon d'organiser ces jeux fictifs. Donc il y a là tout un jeu autour de la prostitution. De fait, un de ces clubs dits libertins, on a donné des adresses tout à l'heure, il a fermé il y a quelque temps, mais près de la Porte Maillot, était installé dans les locaux d'une ancienne maison close. Et cela se savait, il a fermé ses portes il y a quelques mois, mais cela se savait, et le fait que ça se sache fait que ça créait une espèce de petit piment supplémentaire, me disaient les gens que j'ai pu y rencontrer, notamment les femmes, qui me disaient « jouer à la pute sans en avoir les inconvénients, qu'est-ce que c'est excitant ?» Voilà. À l'autre extrême du continuum, j'ai été étonné de rencontrer notamment des femmes arrivées en France ou en Europe occidentale liées en raison de flux migratoires, soit d'Amérique du Sud, soit d'Europe de l'Est notamment, qui utiliser ces espaces. Tu parlais tout à l'heure de promotion canapé. Ben là, ce n'est pas promotion, mais dans l'espoir de rencontrer. Alors, certains de ces espaces sont réputés avec une fréquentation importante de personnes du showbiz, parfois importante de personnes qui travaillent dans la publicité, etc. Suivant les lieux, ça se sait, ça se dit, ça se là. Et y aller avec l'espoir de rencontrer quelqu'un qui pourrait... Bon, alors, de fait, la facilité avec laquelle se mettent en place des relations sexuelles entraîne une relative facilité avec laquelle, notamment quand on est femme, on peut récupérer des numéros de téléphone, on peut se faire connaître, on peut espérer éventuellement peut-être du travail, voire rencontrer un mari qui sera occidental, qu'on me dit, mais qui ne sera pas une fille qui venait de Varsovie, ben polonais, les polonais de Paris, j'en ai ras-le-bol, c'est pas ça qui m'intéresse, si je suis venu en France, c'est pas pour rester entre polonais, et là, au moins, je rencontre des gens qui sont médecins, qui sont cadres, qui sont avocats, etc., etc. Voilà. Donc, en gros.
Peut-être sur une question centrale, je crois que c'est la question de la domination, en fait, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la domination masculine, puisque dans le concept d'échange économico-sexuel, il y a bien cette idée que c'est dans une structure, une oppression structurelle des femmes qui prend sens. Et il y a plusieurs exemples, en fait, plusieurs cas dans le livre qui semblent un peu contre-intuitifs, en fait, par rapport à où se maintient, où cette reproduction, en fait, de la domination masculine. Par exemple, on peut prendre deux exemples de cas, celui de Mélanie Gourarier, donc qui a fait un travail sur la communauté de la séduction, et qui montre que dans ce cas, bon, non seulement c'est des hommes hétérosexuels qui essayent de séduire, donc a priori pas nécessairement de faire appel à une contrainte par corps, mais de convaincre en fait les femmes, et en plus ils essayent aussi d'être le prix eux-mêmes de l'échange, c'est-à-dire de se donner ou de donner à leur sexualité une certaine valeur. Mais on peut se demander, et c'est la question que pose Mélanie, est-ce que pour autant la domination masculine est affaiblie, contrecarrée? Et puis l'autre exemple, c'est celui de Gianfranco Rebuccini, qui a travaillé sur les masculinités au Maroc, et donc dans ce cas, c'est le cas qu'on évoquait tout à l'heure d'une prostitution entre hommes, en fait, et je pense qu'il me semble que Gianfranco, on peut se demander si est-ce que ça fonctionne de la même manière, et il montre qu'à la fois il y a bien des différences de statut, mais aussi qu'il y a aussi des privilèges masculins que gardent, y compris les hommes qui se prostituent. De la même manière, en fait, toi, Philippe, sur ton terrain, c'est vrai que j'ai l'impression que tu questionnes un petit peu cette opposition entre celles qui seraient forcées à faire ce type de pratique, notamment en particulier, c'est l'idée qu'on peut en avoir quand, comme le disait Hervé Nogien, le libertinage peut dégoûter certaines personnes parce qu'on trouve ça dégueulasse, ou d'autre part, celles qui uniquement veulent faire ça. Finalement, on a l'impression que cette opposition entre désir et contrainte, etc., n'est pas tout à fait pertinente, ou en tout cas doit être analysée de manière plus précise. Donc peut-être cette question, qu'en est-il de cette domination masculine dans les cas que vous avez analysés?
Oui, là, en citant, comme tu as cité, je ne sais pas si ça marche.
Non. L'autre peut-être marche?
Non, mais c'est... Oui.
Bon, je vais essayer. Oui, ça marche. Quand tu cites et Mélanie Gourarier et Gianfranco Rebuccini, effectivement, partant de ce qui semble en décalage par rapport à ce que raconte Paola, pourtant, on en arrive bien sur l'idée d'une domination masculine qui reste forte. Je crois que Mélanie est quelque part dans la salle, mais comme je ne vois rien... Ah, voilà. Et en fait, Mélanie, c'est très intéressant parce qu'à la fois, on a une évolution... on est dans le cadre d'une évolution contemporaine où des hommes qui se regroupent dans ce qu'ils appellent la communauté de la séduction en réaction contre ce qu'ils perçoivent du féminisme aussi, décident qu'ils ne vont plus payer pour la sexualité des femmes et à l'inverse, qu'ils seront payés, en tout cas essayer de faire en sorte qu'ils soient payés. Et Mélanie montre bien à la fin de son article combien finalement se rejoue dans la séduction quelque chose qui est bien de l'ordre d'une violence très forte des hommes contre les femmes. Donc, et pour ce qui est de l'article de Gianfranco Rebuccini qui lui porte sur des hommes qui vendent des services sexuels au Maroc, sa comparaison finale entre la prostitution masculine et la prostitution féminine est tout à fait édifiante puisque finalement il montre bien que ces hommes qui se prostituent, ces jeunes hommes qui se prostituent au Maroc, cette étape de prostitution n'est en rien incompatible avec, même fait partie de stratégies qui permettent parfois des formes d'ascension sociale. Ce qui compte à la fin, c'est que ensuite, plus tard ou même en parallèle, ils entrent dans le jeu de la reproduction. Alors que pour les femmes prostituées, évidemment, la représentation n'est jamais la même et jamais on ne décrit la prostitution féminine comme permettant des formes d'ascension sociale ou comme étant une stratégie pour obtenir davantage socialement.
Ça fait écho, la question de domination fait écho à beaucoup de choses sur mon terrain qui ne sont pas forcément liées entre elles. Je parlais tout à l'heure de la prostitution vue comme un jeu. Là, j'ai même eu certaines de mes informatrices qui me parlent de la soumission vue comme un jeu, et je ne parle pas de pratique, en l'occurrence BDSM, hein, comme un jeu qui... Alors, j'ai repris là les propos d'une institutrice lyonnaise qui me dit pourquoi c'est mieux de se laisser dominer par un mec pour ses trucs. Le fait de te laisser guider par le mec te dédouane du fait d'assumer ton propre désir et de te dire « moi, je vais dans ces boîtes-là, moi, j'aime coucher avec d'autres hommes ». Je me permets ainsi d'avoir du plaisir avec d'autres hommes. Tout ça, c'est finalement beaucoup plus confortable quand on accepte de se placer dans une logique de soumission. C'est-à-dire, j'y vais avec quelqu'un en qui j'ai confiance et qui va... me dire « fais ci, fais ça », et à partir du moment où j'accepte de me mettre dans cette logique de soumission, je peux me laisser aller et ne pas me poser des questions qui me gênent par rapport à moi-même. La question l'appellation libertine, ça a un petit côté connotation philosophe. Certaines me disent, mais oui, mais en fait, si j'y vais, c'est aussi pour des raisons moins avouables. C'est aussi pour des raisons pour lesquelles je ne suis pas fier de moi. Et là, le fait de se laisser dans une espèce de jeu consenti pendant quelques heures dans ce type de rapport me semble plus confortable. Alors, autre élément... Il y a là une espèce d'arsenal de talons, aiguilles, les femmes qui jouent ce type de jeu se trouvent amenées à être valorisées dans ce qui fait traditionnellement l'apanage des jeux de la femme, c'est-à-dire la séduction par le corps. A priori, traditionnellement, on demande à la femme de séduire par son corps, là où l'homme doit séduire par son pouvoir, par son argent, etc. Et dans ces espaces-là, dans lesquels c'est par le corps que passe la séduction, les femmes qui rentrent dans ce type de jeu de façon active vont se trouver revalorisées d'une certaine façon, puisque la règle se trouve, j'allais dire, à leur avantage, à condition de jouer ce jeu-là, à condition de jouer ce jeu-là. Et éventuellement, certaines, alors sans entrer dans une perspective militante, parce qu'aucune ne rentre dans une perspective vraiment militante, mais peuvent mobiliser une part de la confiance en elles qu'elles ont pu acquérir sur le domaine de la séduction hétérosexuelle dans des espaces éventuellement domestiques, éventuellement professionnels, éventuellement dans la vie publique. Alors, il y a aussi quelques petites tentatives de renversement. Une de ces femmes qui, depuis une dizaine d'années, tient un blog qui s'appelle Flo Castel, qui a lancé il y a 6 mois une espèce de pétition qui est reprise, je crois, sur le site Doctissimo. Il y a pas mal de pour essayer de créer un label Femmes Libertines. Donc, qui revendique de libertiner toute seule et qui demande que, y compris dans ces espaces, mais aussi à l'extérieur, soit davantage reconnu le rôle actif de la femme, etc., etc. Mais ça reste marginal.
Peut-être qu'il y a un autre thème qui est important. On a vu que dans le... Pour Paola, en fait, la question de l'argent n'est pas vraiment une question centrale, puisque c'est la question de l'échange, y compris d'autres biens. Et il me semble que le livre fait un pas en avant aussi sur cette question de l'argent, en essayant au contraire de prendre l'argent au sérieux, au sens où on a toujours l'idée que l'argent, finalement, marchandise les relations ou met en équivalence un ensemble d'objets de manière problématique. Il me semble qu'il y a plusieurs travaux dans le livre qui montrent qu'il y a des usages sociaux de l'argent ou qui prend au sérieux l'idée qu'il faut faire une sociologie ou une anthropologie de l'argent, c'est-à-dire que l'argent ou l'échange d'argent n'a pas qu'une seule signification. Il me semble que notamment dans le travail de Pascal Apsis sur la prostitution en Bolivie, qui montre bien qu'en fait l'argent peut être marqué, c'est-à-dire pourquoi à un moment je peux donner de l'argent et quelle signification sociale cela a indépendamment de la valeur économique elle-même. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment on peut casser en fait cette espèce de signification unique qu'aurait l'argent? Et peut-être aussi, Philippe, sur ton terrain, il semble à la fois que l'intérêt économique ou les motivations économiques sont importantes, et en même temps, elles sont toujours un peu mises en balance avec d'autres, sexuelles, sexuées, je sais pas, ou d'autres peut-être. Est-ce que tu peux essayer, est-ce qu'il y aurait une valeur relative en fait de l'argent dans ce type d'échange, ou est-ce que quand même il garde une place importante?
Peut-être effectivement Pascal Apsis, qui je crois est aussi ici, mais je ne sais pas où non plus, elle fait quelque chose d'assez novateur. En tout cas, dans les recherches qui portent sur la prostitution, souvent on s'est intéressé, et je me mets dans le lot, à ce qui se passe et aux représentations qu'on a de l'argent de la prostitution. Pascal déjà dit, comme Paola Tabé, que ce qui définit la prostitution, c'est certainement pas qu'il y a de l'argent qui transite là-dedans, parce qu'il y a dans énormément de cas de sexualité, de l'argent ou des biens qui transitent, mais surtout elle s'intéresse à ce qui se passe en amont, c'est-à-dire comment l'argent des clients est considéré symboliquement déjà par les prostituées comme de l'argent sale, c'est-à-dire de l'argent qu'ils ne vont pas verser à leur famille, qui ne va pas servir aux enfants, etc., etc., à la reproduction. Et donc, les prostituées que voit Pascal Apsis dans une maison close de Bolivie, finalement, disent que ce sont elles qui blanchissent l'argent. Donc il y a une inversion de la perspective habituelle, où souvent on dit l'argent de la prostitution est tellement représenté comme de l'argent sale qu'on ne peut pas, que même les prostituées ont du mal à le réinvestir dans des choses durables. En fait, Pascal montre bien à quel point l'argent est symbolisé sans arrêt de part et d'autre, et que parce que les prostituées peuvent appeler une forme de, ou ce que Pascal appelle une forme de rédemption maternelle, en fait les prostituées disent réutiliser l'argent sale des clients pour nourrir leurs enfants, etc., etc. Et puis il y a quelque chose aussi qui est très intéressant dans ce qu'elle raconte, c'est comment les clients de prostituées de cette maison close de Potosí en Bolivie consentent même au vol. Et comment le vol participe finalement aussi de ces représentations que chacune et chacun a de l'argent et comment il se noue au travers du service sexuel.
Alors, dans ces espaces commerciaux de sexualité collective, j'ai démarré l'article par une des boîtes parisiennes qui a été obligée de fermer pour des raisons de proxénétisme. Et c'est régulier, c'est récurrent. La question de la mise à distance de la prostitution est quelque chose qui me semble intéressant parce qu'à la fois l'argent est omniprésent et à la fois il ne faut surtout pas que ça puisse s'approcher de trop près d'une véritable prostitution. C'est-à-dire que quand il y a des jeux, c'est délibérément des billets fictifs qui sont ça me semble très intéressant. De fait, il se trouve que quelques-unes de mes informatrices sont à la fois, j'allais dire, s'affichent comme résolument libertines et ne gagnent de l'argent que en vendant ou louant des services sexuels. Mais par deux créneaux toujours complètement séparés, aussi bien les espaces de sexualité collective que les sites internet sur lesquels peuvent éventuellement se faire ou s'organiser des rencontres sont très très vigilants à et même les personnes elles-mêmes, les pratiquants qui se disent libertins, libertines sont notamment les femmes très très hostiles à ce qui pourrait être une fréquentation avec des prostituées. Et certaines femmes libertines disent mais cette boîte j'y vais plus, il n'y a que des vieux avec des jeunes. Alors la question de l'âge qui fait une espèce d'implicite, si c'est des vieux avec des jeunes, ça veut dire que les jeunes sont des escortes, etc. Bon, et je n'y vais plus parce que je ne veux pas être mélangé avec ces femmes là hein. Donc la question, sexe, argent, omniprésent, et à la fois, si jamais c'est trop proche, il faut absolument le tenir à distance.
Peut-être, tu disais, Catherine, qu'il y avait une volonté d'élargissement, notamment avec la notion de transaction sexuelle, de prendre d'autres aspects de ces échanges en jeu. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'articles qui montrent comment il y a non seulement des échanges économiques entre sexualité et argent, mais qu'il y a aussi des échanges d'affect, des échanges de désir, des échanges de plaisir. Julie Castro, qui a travaillé sur les échanges économico-sexuels au Mali, parle, elle, d'épaisseur des transactions. Sébastien Roux essaie de prendre en compte les affects dans le cadre du tourisme sexuel en Thaïlande, et donc en fait dans le cadre de femmes thaïlandaises qui engagent des échanges avec des hommes occidentaux. Et à la fois, c'est vrai que je pense que ça signale un déplacement peut-être aussi de méthode. Le travail de Paola était un travail essentiellement théorique, comme elle le dit elle-même. Elle connaît bien les prostituées italiennes, mais c'est pas un travail qui repose sur un terrain d'enquête, alors que c'est vrai que quand on fait un terrain ethnographique, on est face non seulement aux affects des autres, mais aussi à ses propres affects. Donc on a envie de les prendre en compte. Et à la fois, c'est vrai que du point de vue du féminisme matérialiste, d'une certaine manière, que les femmes mariées soient contentes ou pas de leur relation joyeuse ou triste, que les prostituées prennent du plaisir ou pas, d'une certaine manière, ne change rien à la structure ou change peu de choses à la structure des rapports sociaux de sexe. Donc peut-être pourquoi mettre en avant cette dimension affective en fait ou désirante du social, et qu'est-ce que ça veut dire en fait du point de vue de la notion d'échange économico-sexuel?
Oui, alors peut-être parce que le livre est pour partie parti d'un colloque qui s'appelait Transactions sexuelles, qui a eu lieu à Lausanne, et puis on a demandé aussi à d'autres chercheurs d'intervenir, mais on partait d'un premier constat lors de ce colloque très fort, c'est que l'idée que la sexualité est libre d'économie est une idée absolument ethnocentrée et très présente en Europe, en Amérique du Nord, mais vraiment très peu présente ailleurs. Et parallèlement à ce constat, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tenu absolument à ce qu'il y ait des articles qui portent sur ici, pour bien montrer que non, ça c'est ici, il y a effectivement aussi toujours de l'échange entre argent, biens, etc., et services sexuels ou sexualité. Mais je pose ça en premier pour dire qu'un des deuxièmes constats qui était le plus souvent valable au travers de recherches de terrain, et effectivement, Paola, ce n'est pas tout à fait son propos de parler de ses propres recherches de terrain dans sa théorie de l'échange économico-sexuel, mais dans quasiment toutes les recherches de terrain, on voyait que les formes de, d'échange entre même argent, explicitement argent là parfois, et services sexuels n'étaient pas incompatibles avec des formes d'affect, avec du désir parfois, avec du plaisir, etc. Et par ailleurs, pour faire le pont avec ce que tu racontais au tout début sur le continuum de Paola, où tu as les deux extrêmes, d'un côté échange explicite d'argent, de l'autre échange implicite de biens non dits, non reconnus même. Je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est embêtant. Sur les champs. Oui, voilà. En fait, il y a chez Paola quelque chose qui nous peut-être nous semble relever d'un, je vais le dire de manière un peu caricaturale, d'une forme terriblement déprimante de déterminisme. C'est-à-dire que quand bien même on est du côté de l'explicite et qui permet, selon Paola, des formes d'émancipation, donc certaines prostituées qui, parce qu'elles savent qu'elles vendent un service contre telle somme, parce que c'est très très contractualisé, du coup porteraient un potentiel politique, alors qu'à l'inverse, non. Même dans ces cas-là, chez Paola, donc il y a une forme d'émancipation possible, et pour autant, ça n'apporte pas de bonheur, pour le dire simplement, vraiment très simplement. C'est un peu caricatural. Alors qu'à l'inverse, les situations de mariage, où là, les femmes ne considèrent pas qu'ils s'échangent du service sexuel contre quelque chose qui serait de l'ordre de l'économie, alors, pour Paola, elles sont évidemment dans l'aliénation. Et peut-être que l'aliénation peut les faire croire à une forme de bonheur, pareil, je continue de caricaturer, mais au-dessus de ça, il y a forcément la domination masculine. Et alors, en termes de structure, sans doute que c'est quelque chose d'excessivement fort. En termes de vécu des personnes qu'on rencontre sur le terrain, bien sûr par résistance, bien sûr peut-être parce que les gens n'ont pas envie. Et ça se comprend absolument, de, non seulement de se sentir aliéné, mais qu'on leur dise « mais vous êtes aliéné là ». Du coup, cette tension-là, nous, elle nous semblait intéressante à tenter de dépasser, je ne sais pas, mais faire des pas de côté pour... je ne sais pas si je suis très claire, mais si. Je vais...
Tu demandais comment... on pouvait arriver sur la question plus loin que la question de l'affect, par exemple. À partir de ce colloque de Lausanne, on avait développé transactions sexuelles par rapport à échanges économiques sexuels. L'an dernier, sexualité négociée. Se dire, le sexe, c'est pas forcément du sexe. L'argent, c'est pas forcément l'argent. La question peut se poser. Une femme qui a plusieurs relations en parallèle, doit soit du silence, soit se débrouiller pour que ça ne se sache pas, soit, si ça se sait, doit des explications. Pourquoi du silence, des explications ? Parce que immédiatement va pouvoir se mettre en place la question de jalousie. D'où la question des affects, de mobilisation des affects, de l'incertitude des affects. Donc, on ne se retrouve pas forcément à avoir à échanger de l'argent, mais on se retrouve à avoir au moins à échanger des informations et avoir affaire avec les affects des personnes avec qui on se débrouille pour cacher ou on se débrouille pour expliquer et donner des explications suffisamment valables. Donc on se retrouve assez facilement à des glissements où c'est pas forcément de l'argent qui s'échange, mais la sexualité contre de la sexualité et qui reste complètement indépendante, c'est une espèce de fiction.
Peut-être dernière question avant de laisser les questions pour la salle, c'est sur justement la dimension politique en fait, à la fois de votre travail, du travail de Paola. Le travail de Paola, enfin, comme Armel le disait à propos du féminisme, articule théorie et politique de manière très claire, puisqu'il vise finalement à desserrer les rapports sociaux de sexe en posant un diagnostic en fait, et en donnant des outils, des armes. Le concept d'échange économique sexuel en fait est aussi une arme pour les luttes féministes. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que en fait on peut retrouver dans les travaux, dans le livre en fait des perspectives d'émancipation, alors que ce soit celle de Paola que Paola a posée, c'est-à-dire que l'explicitation des échanges peut être aussi émancipatrice, ou des dimensions utopiques dans le travail de Paola, c'est l'idée qu'en fait il puisse y avoir une sexualité qui soit un échange de plaisir en fait. De plaisir contre plaisir et pas de plaisir contre autre chose. Et en effet, je pense que Paola doute un peu en fait de cette possibilité, ou en fait estime que c'est une possibilité qui finalement on estime que c'est l'ordinaire, alors qu'en fait que c'est là pour le coup plutôt l'extraordinaire. Et est-ce que toi finalement, Philippe, bon, tu disais qu'en fait c'était pas nécessairement des militantes, mais est-ce qu'il y a quand même des revendications politiques, est-ce qu'elles se disent par exemple féministes, est-ce qu'elles développent une perspective utopique un petit peu à partir de leur propre pratique?
Alors la question se dire féministe, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, c'est se sentir opprimé par les discours féministes. C'est un petit peu ce que Fanny Forgeau, dans sa thèse sur la séduction en Norvège, etc., dit. Je rencontre des jeunes qui me disent, moi, si on me dit passer la soirée avec une féministe, je me dis je vais me barber, etc. Voilà. Et là, régulièrement, ce que me disent les informatrices, c'est les féministes ras-le-bol. Elles savent pas de quoi elles parlent. Nous, on sait, on le vit, et de façon pratique. Alors, ce qui me semble étonnant, c'est que, de façon pratique, la façon dont elles se positionnent porte la marque d'une forme de poids de la domination masculine, et qu'elles essayent, j'allais dire, de façon pratique, pragmatique, de... alors j'ai quelques petits extraits d'entretien là, à la maison, rectifier les choses, dans la rue, dans le métro, rectifier les choses, faire en sorte que... Voilà. Et à partir de l'espèce de confiance réactivée en elles par le capital de séduction qui a été, on pourrait dire, boosté par leur façon de s'impliquer dans ces activités de sexualité collective, où alors il y a, j'allais dire, à la fois un discours de rejet des théories féministes assez régulières, en général qu'elles connaissent mal mais qui ne les intéressent pas, et en même temps dans la façon dont elles se positionnent, de indiquer à quel point elle se trouve elle-même prise dans ces logiques-là, mais y compris au sein de ces espaces. Hein, le manifeste que Flo Castel essaye de faire circuler en ce moment pour faire reconnaître la belle femme libertine de ces espaces, c'est bien qu'au sein de ces espaces même, il y a des choses qui leur semblent avoir à être modifiées.
Et sur les dimensions d'émancipation qu'il y a dans les recherches, alors c'est compliqué parce qu'effectivement, quasiment aucune des femmes qui sont rencontrées là sur ces terrains-là ne porte elle-même un discours féministe. On peut en faire le constat. Pour autant, quand même, un nombre non négligeable considère être dans une logique d'émancipation, y compris en prenant des risques. Je pense à l'article de Gwenola Ricordo sur donc des femmes philippines qui décident de se marier ou en tout cas de vivre en union avec des hommes soit européens, nord-américains, coréens, japonais. Alors certes, elles prennent des risques, et elles consentent au risque, mais elles ont quand même réellement une volonté de se marier, et souvent de se marier à un homme occidental, pensant que ça sera pour elles le moyen d'une forme d'ascension sociale, et une forme de rejet aussi de ce qu'il est possible de vivre pour elles en tant que femmes aux Philippines. sur un autre registre, les Miss Visa de Fatia Majdoubi. Mmh. Donc, celles que Fatia appelle des Miss Visa, ce sont des jeunes femmes qui vivent en France ou en Belgique ou en Espagne et qui ont la nationalité de ces pays européens-là, mais qui sont d'origine de pays du Maghreb ou de Turquie, et donc qui vont monnayer de manière plus ou moins entrepreneuriale, qui vont monnayer leur titre de séjour pour permettre à des hommes de leur pays d'origine de venir en Europe. Et donc oui, elles sont dans une logique là un petit peu d'inversion parfois, où il s'agit bien que les hommes paient pour l'union. Mmh. À la rigueur, c'est presque la dot inversée là.
Mmh. Bah, peut-être qu'on peut... laisser la salle poser des questions.
Oui, bonjour. Je voulais réagir à propos des milieux libertins et des boîtes. Je trouve très étonnant que vous ne soyez pas parvenu au niveau de l'analyse que les gens, sauf à être en compagnie de quelqu'un qui est rétribué pour accompagner un homme, que les gens y vont en couple. Que les femmes qui y vont puissent considérer les féministes comme barbantes, certes, mais ce sont des femmes qui ont gardé un code de comportement sexuel qui ne dépend que de leur relation à leur compagnon, qui les emmène dans cette boîte. C'est-à-dire que leur épanouissement sexuel passe par le fait qu'elles se défaussent de le rechercher, puisque la responsabilité en incombe à leur accompagnant, qui est aussi leur compagnon de vie. Donc, certes, les féministes sont barbantes, et leur combat aussi, et leur rhétorique tout autant, mais... On ne fait que rechercher un plaisir qu'on n'assume pas soi-même. On n'assume pas la recherche de son propre plaisir et on l'a fait assumer par son accompagnant. Est-ce que je m'explique ou...
Oui, oui. Je n'ai peut-être pas assez insisté au tout début sur le fait que je m'intéresse. Enfin, les femmes que je rencontre, pour la plupart d'entre elles, n'y vont pas avec leurs compagnons. Hein. Alors, je ne dis pas que globalement il n'y a pas des espaces où des femmes s'y retrouvent avec leurs compagnons. Je me suis intéressé à celles qui y vont à l'insu de leurs compagnons, si elles en ont un, ou qui y vont pour trouver des types de relations qui sont moins engageantes que celles qu'elles ont pu connaître dans une première union qui a pu durer une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui s'est soldée par ce qu'elles considèrent comme un échec et où elles se disent « je ne veux plus de mise en couple, en revanche, c'est pas pour ça que je veux pas » ou de sexualité. Voilà. Donc, ce que vous dites, ce que vous décrivez, me semble tout à fait, notamment très bien décrit par Daniel Vellerlang. En l'occurrence, je me suis intéressé à des femmes qui essayent dans la sexualité vu en dehors d'une stricte monogamie ou d'une stricte soumission à l'homme avec qui on vit, de trouver à travers des sexualités plurielles de différentes façons une espèce d'espace de liberté. Et éventuellement économique, pour certaines d'entre elles. Éventuellement, ces espaces où il y a pas mal de brassage social peuvent permettre à certaines d'entre elles, notamment celles que j'ai rencontrées, c'était dans le cadre de flux migratoires, des tentatives d'introduction dans des milieux de la société occidentale auxquels elles ont plus difficilement accès ailleurs, me disent-elles.
C'est exactement la suite de ce que disait madame. Cette réflexion, je suis tout à fait d'accord. Mais parce que vous, quand vous parlez des femmes seules, en fait, vous parlez des femmes seules qui, quelque part, n'acceptent pas leur sexualité. C'est une espèce de refus, d'acceptation de leur sexualité, de leur plaisir, du fait qu'elles soient heureuses autrement qu'avec l'homme avec lequel elles vivent, puisque c'est ce que vous dites, qu'elles vivent avec un autre homme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est une espèce de relation qui est quelque part quelque chose qui n'est pas, qui est une non-acceptation de ce qu'un homme accepte et considère comme normal, qu'il ait des plaisirs ailleurs qu'avec sa femme, qu'il ait des plaisirs dans la prostitution. Donc, elle, vous dites qu'elle, quelque part, elle se cache ou elle joue. C'est-à-dire qu'elle est obligée, quelque part, de jouer, alors qu'elle n'accepte pas, parce qu'elle a eu une éducation, quelque part, moi, je pense, qui l'empêche d'être heureuse en ayant une sexualité. C'est un peu ce que vous disiez sur le mariage, qui est que le bonheur d'un homme et d'une femme ensemble ne peut pas exister d'après elle était quand même très négative sur
oui c'est une critique du mariage.
Donc c'est un petit peu le même sentiment. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est quelque part, moi, dans mon esprit, je trouve, et peut-être de moins en moins maintenant, heureusement, mais dans les générations d'avant, le mariage, il y avait le devoir conjugal. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plaisir. Les femmes, elles n'allaient pas se marier pour le plaisir. Elles se mariaient parce que, quelque part, elles étaient obligées. Quelque part, on leur donnait une obligation de se marier avec telle et telle personne. Parce que il y avait deux parcelles de terrain qui feraient une grande parcelle, parce que pour des choses comme ça, et qu'on voit maintenant que quelque part, les gens justement, quand ils se marient pour le plaisir, ils divorcent beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un petit peu, donc je crois qu'il y a chez la femme un peu une peur d'annoncer ou de vivre quelque chose qui est sûrement très difficile. Mais je crois qu'il y a on parle de la domination masculine, je suis d'accord, mais on parle de la domination masculine parce que quelque part les femmes jouent à être dominées quelque part, et je suis pas d'accord.
Alors quand vous faisiez le parallèle entre la liberté que s'octroyaient les hommes et que peut-être ils continuent à s'octroyer de avoir une épouse et avoir une vie sexuelle en dehors, il me semble que certaines des femmes que je rencontre se trouvent à essayer d'établir une espèce de parallèle, c'est-à-dire d'avoir effectivement une vie domestique avec éventuellement une vie conjugale peut-être aussi peu satisfaisante pour elles qu'elle peut l'être pour l'homme qui lui-même va éventuellement au bordel, va éventuellement voir ailleurs. Et de la même façon, me semble-t-il, et chose qui peut-être existait moins pour leur grand-mère, alors que l'homme, son grand-père, sans doute, allait lui aussi au bordel, ou peut-être même encore plus facilement qu'aujourd'hui, ces femmes, me semble-t-il, essayent d'avoir une espèce de vie sexuelle en dehors, peut-être, de la vie conjugale. Alors, est-ce que c'est qu'elles n'assument pas leur propre sexualité strictement conjugale ? Effectivement. Mais
elles se trouvent des raisons ou des jeux.
Oui. Je ne sais pas si ça le justifie. Je crois que c'est dans le cadre de choses qui sont présentées comme ludiques.
Je vous rappelle qu'il faut parler dans le micro parce que tout est enregistré, en fait. Donc, du coup, les gens risquent de ne pas comprendre les échanges qui sont faits entre vous, enfin, entre la salle et les intervenants. Peut-être qu'une dernière question, avant qu'on passe à la table suivante. Sinon, on peut... Une question ou juste un étirement? Je viens de vous dire qu'il faut parler dans le micro.
Je voudrais juste une précision, en fait, sur ce que vous avez dit sur la soumission des femmes, sur le jeu de la soumission. Vous parliez du fait que, pour ces femmes, la soumission leur permettait de ne pas s'identifier ou de ne pas être assimilée à une prostituée. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que c'est bien ce que vous voulez dire ?
Alors, je crois qu'il ne faut certainement pas généraliser pour toutes. J'ai cité un exemple d'entretien que j'avais eu avec une femme d'une trentaine d'années qui n'aimait pas le terme libertine, qui n'aimait pas le terme, les termes qui enjolivent, qui dit « moi, en fait, j'assume mal ». La façon dont je prends du plaisir à être avec plusieurs hommes à la fois, à ne pas savoir qui c'est, à ne pas savoir qui je suis, etc. etc. J'aime bien, mais c'est quand même contraire. Bon. Et donc là, qui me disait, j'aime autant ne pas avoir à assumer moi-même que je vais là, je me mets entre les mains de quelqu'un en qui j'ai confiance, qui me dit bah, « tu vas faire ça ». Je sais qu'il ne me fera faire que des choses qui, globalement... Voilà, et donc, je peux, alors, me disait-elle, me dédouaner de ça. Bon, autre chose, la question des jeux paraprostitutionnels qui sont organisés avec de l'argent fictif, avec des mises en jeu fictives, et qui, semble-t-il, leur paraît excitante avec des personnes qui disent « jouer à la pute ». Avec tous les habits de la pute, etc., mais sans être dans les conditions d'exercice de la prostitution, qui sont sans doute misérables, etc., bah, finalement, je trouve ça assez excitant. Je trouve ça assez excitant. Voilà. Donc ce sont deux choses différentes. Il y en a d'autres, hein, de petites bribes de choses, où il y a, un intérêt à rentrer dans une forme de sexualité, dans un cadre ludique, avec donc des règles de jeu, des règles auxquelles on se soumet ou qu'on essaye d'inventer soi-même. Un certain nombre des organisatrices de soirées sont des anciennes actrices de cinéma X, hein, qui se recyclent, passé l'âge où elles peuvent, hein, avec la façon de mettre en scène elles-mêmes des soirées dites privées, de fait essentiellement paracommerciales. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Encore une question ? On a encore le temps pour une dernière question éventuellement ?
Oui, moi je voudrais poser une question sur l'âge. Est-ce que ces femmes sont plus âgées, moins âgées, du même âge que les hommes qu'elles rencontrent dans ces boîtes, premièrement? Et deuxièmement, juste faire allusion aux deux articles qui portent sur des femmes carrément plus âgées, alors 60 ans et plus, qui ont des relations sexuelles avec de jeunes hommes étrangers, soit au Sénégal, soit dans le désert, dans le sud marocain, et où ce sont ces jeunes gens qui gagnent quelque chose, pas nécessairement de l'argent direct, mais grâce à ces échanges avec ces femmes qui ne vont pas nécessairement là-bas pour faire du tourisme sexuel, mais qui sont amenés par les circonstances, les voyagistes. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Donc, voilà, la question de l'âge, couplée à la question de ce qu'on appelle la race, entre guillemets, puisqu'on ne veut jamais appeler ça comme ça, mais enfin, les gens d'une autre couleur ou d'une autre culture. Donc, âge, culture et...
Classe.
Et fric, voilà ma question. Non, c'est, ma simple c'est, question.
C'est vrai que nous, quand on dit peut-être l'explication par la domination masculine ne suffit pas, ce qu'on veut aussi dire, c'est mais alors qu'est-ce qu'on fait de la race, de la classe, de l'âge, qui est souvent oublié justement. Et il y a deux très très beaux papiers dans le livre, celui de Corinne Covin-Werner, effectivement, avec des femmes pas forcément très âgées mais qui ont une quarantaine d'années, qui sont urbaines et qui, lors de voyages dans le désert saharien, tombent amoureuses littéralement d'hommes en bleu, et qui, alors certes, il y a, elles vont payer, les hommes vont recevoir des cadeaux, etc. Mais déjà, c'est surtout pas nommé et dit comme tel, sauf au moment de la rupture. Mais au moment des ruptures, dans tous les cas, de toute façon, beaucoup de choses sont remises sur le tapis. Et surtout, Christine Salomon, elle parle vraiment de femmes âgées qui ont une soixantaine d'années, qu'elle appelle des vieilles blanches, qui vont dans des bars ou des discothèques parisiennes rencontrer des jeunes blacks, souvent sénégalais. Et là, je trouve qu'on a bien quelque chose qui questionne ce qu'il faut aux femmes. Alors ces femmes, justement, sont légèrement, elles sont plutôt pauvres, enfin pas spécialement riches en tout cas, mais elles sont quand même légèrement plus aisées que les jeunes blacks avec qui elles vont. Et j'ai envie d'insister là-dessus, c'est que effectivement, s'il y a quelque chose où il n'y a toujours absolument pas d'égalité, c'est que les femmes, toujours aujourd'hui, pour payer, même de manière indirecte et pas tout à fait explicite parfois, des services sexuels, alors il faut qu'elles aient quelque chose en plus par rapport aux hommes avec qui elles vont aller. Que ce soit parce qu'elles sont un peu plus riches, un peu plus cultivées, un peu plus, je ne sais pas, blanches, etc., etc.
Et
un peu plus à papier. Et donc, on en revient bien à une des phrases très fortes de Paola Tabé, qui est « Pourquoi l'homme le plus pauvre peut-il se payer le service sexuel de la femme la plus pauvre ?» La réciproque, manifestement, n'est toujours pas vraie. Ouais.
Si je traite, alors de fait, pas dans ce livre, mais dans un autre, j'ai traité spécifiquement cette question de l'âge. De fait, dans les sex clubs, on a affaire aux deux types de populations, c'est-à-dire à la fois à des filles jeunes, parfois même très jeunes, ce qui entraîne éventuellement des fermetures des clubs si elles sont mineures, mais aussi à des femmes âgées, voire plus que sexagénaires. Hein, donc on a vraiment tout là. Bon, et qui effectivement ne sont pas forcément à la recherche de même type de relations, les unes plutôt avec des hommes, soit de leur âge, soit plus âgés, les autres pour les femmes plus âgées, à la recherche d'hommes plus jeunes. Voilà. Donc on a vraiment, j'allais dire, ce brassage de population, alors qui peut entraîner des stratégies de mobilité sociale de la part des personnes, notamment de sexe féminin, parce que je me suis intéressé à elles, mais aussi éventuellement d'hommes issus notamment du Maghreb, et qui peuvent faire des rencontres aussi favorables pour eux d'introduction dans la société européenne occidentale.
On va s'arrêter là pour ce troisième moment. Merci Mathieu, merci Catherine, merci Philippe.